Bonjour, vous écoutez FM+, 91 FM à Montpellier. C'est le cinquième numéro de l'émission Le Fil du Fer, l'actualité plus ou moins actuelle, des projets en tout genre et des chemins de vie. Ensemble, c'est mieux que tout seul, le dessinateur ou la dessinatrice inconnue. Aujourd'hui, Le Fil du Fer accueille deux invités pour un projet, celui d'Entrée Libre. Frédéric Dupuis, vous avez 34 ans, vous êtes né à Cherbourg, vous vivez à Montpellier. Vous avez fait des études supérieures à l'école de dessin Émile Cole à Lyon. Émile Cole est considéré comme l'inventeur du dessin animé. Vous êtes illustratrice et peintre. Vos activités professionnelles vous ont notamment amené à travailler pour le théâtre. Vous illustrez aussi des livres jeunesse et peignez aussi, mais pas que. Matt Conture, c'est votre nom d'auteur, vous avez 53 ans, vous êtes né à Viry-Châtillon dans l'Essonne, vous vivez à Montpellier. Vous êtes dessinateur, guitariste, chanteur, compositeur. Votre groupe a pour nom Courge. Vous avez participé à la fondation de la maison d'édition de bande dessinée L'Association. Vous animez des sessions de dessin collectif, vous organisez des fanzines et des ouvrages de micro-édition, mais pas que. Matt Conture et Frédéric Dupuis, vous êtes celles et ceux qui ont cofondé Entrée Libre, deux rues du Bail, Montpellier, en 2009. Montpellier peut s'enorgueillir. Entrée Libre se trouva dans les pages du New York Times il y a quelques années. Bonjour Frédéric, bonjour Matt.
Bonjour.
Partons de là. Est-ce une drôle d'idée de parler dessin à la radio, puisque nous ne pourrons en montrer aucun ?
Je crois que c'est une idée qui est féconde, en tout cas, puisque j'ai beaucoup d'amis, de collègues, dont des auteurs de l'association, mais pas que non plus, des dessinateurs, donc qui ont participé comme invités ou même animé des émissions sur le dessin et la bande dessinée. Bon, j'ai pas tout écouté, mais je sais qu'ils ont souvent participé à des émissions Mauvais Genre sur France Culture, etc. Je sais que Yann Sfar avait une émission à lui tout seul aussi.
Passons par là aussi. Quels sont pour vous les pouvoirs et les limites du dessin pour l'une et l'autre ? Fred ?
Les pouvoirs et les limites du dessin ?
Est-ce que Matt pourrait reprendre la parole ?
Oui, alors moi le dessin, j'ai plus vu dans la pratique des problématiques de limites, dans le fait que justement je ne trouvais plus de limites. J'ai eu des situations où je me trouvais en train de faire des personnages dans des cases de bande dessinée. Auquel je pouvais donner une expression, et cette expression était celle que je donnais à un instant donné, mais à un instant suivant, je pouvais avoir l'envie et j'avais la possibilité de changer, de transformer cette expression, de franchir la limite qui était donné par la première version, et je pouvais passer de cette première version à une autre, et ainsi de suite. Et cette suite était sans limite, et ça devenait problématique et terrifiant. Et comme on disait avec Fred, à ce moment-là, ça aurait pu faire du dessin animé, des films d'animation image par image, comme après on a pu en faire un peu avec un collègue de l'atelier, où on transforme le dessin et on prend une photo de chaque étape du dessin.
Après, je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui ont un tempérament assez obsessionnel. Je pense que c'est une pratique qui est bonne pour ce genre de tempérament, de tout recommencer, de faire des répétitions, d'aller très très loin dans la pratique en fait.
Et comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Est-ce que vous connaissiez déjà le travail de l'autre au moment de la rencontre ?
Non, je ne connaissais pas. Si, tu connaissais mon travail ?
Oui.
Ah ouais ?
Oui, parce que j'avais découvert ton travail sur des affiches, des flyers pour une exposition que tu faisais.
À Figueroles à l'époque, c'est vrai.
Ouais.
Moi, je t'avoue que je ne connaissais pas ton travail. C'est un ami commun, en fait, qui nous a fait nous rencontrer. Alors même qu'à ce moment-là, c'est-à-dire en 2009, moi j'avais le projet de créer un atelier collectif. Et cet ami commun, en l'occurrence, t'as tout de suite vu comme étant un super élément de ce projet.
Comment décririez-vous le travail de l'autre ? Est-ce qu'avec les années de proximité dans l'atelier Entrée Libre, vous vous découvrez influencé par le style, les humeurs d'encre, l'imaginaire de l'autre ?
Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Je pense que tu es beaucoup influencé par ma pratique, Matt. Bah, avec Matt, c'est vrai qu'on n'a pas des univers vraiment... vraiment correspondant, parce que Matt est dans la BD underground, noir et blanc, encre. Moi, je suis dans la peinture, livres pour enfants, des choses plus oniriques, plus enfantines, vraiment des choses différentes. Mais là où on se rejoint, c'est sur ce qui est des techniques. Oui. On discute beaucoup techniques. Et là, par exemple, Matt travaille beaucoup à partir de tâches faites... avec des matériaux divers et vu que moi j'ai eu un apprentissage très technique et très dans la curiosité de découvrir de nouvelles choses, on discute beaucoup on échange beaucoup sur la pratique. Ouais.
Frédéric Dupuis, nous aurons l'occasion dans le numéro 6 du Fil du Fer de vous entendre plus longuement et évoquer votre propre parcours. Matt Conture, votre carnet de naissance ne porte pas ce nom, je crois. C'est votre nom d'auteur. Oui. L'avez-vous pris à 18 ans, quand vous avez commencé, dès la fin du lycée, à être publié chez Rock and Folk, Viper, Zulu et dans la revue Le Lynx ?
Oui, juste un peu avant. Moi, j'étais lycéen en Lozère. Donc, c'était géographiquement... Enfin, c'était un peu loin, comme ça. J'étais un peu juste un lecteur de Métal Hurlant, quand même. Voilà, c'était ça ma connexion principale, Métal Hurlant, les émissions de Philippe Manœuvre aussi à la radio. Enfin, j'étais de cette génération-là. C'était quoi la question ?
La question, c'était Matt Conture. Quand est-ce qu'on devient Matt Conture et comment on devient Matt Conture ?
Ah oui, voilà. J'ai commencé en Lozère à être un auteur de bande dessinée et simultanément un punk. Et donc, quand on est un punk, on prend un nom. On a un nom de punk. On se choisit son nom. Ça a été en même temps que j'ai pris un nom de... Simultanément, c'était mon nom de punk et mon nom d'auteur. Ça s'est passé en même temps, en fait. C'est quelque chose qu'on fait soi-même. Hein. Complètement déjà dans l'éthique du DIY où on décide qu'on est... Ça, on est ce personnage-là. On se crée son personnage, on crée même son propre nom. Alors mon nom, c'est vrai que j'ai gardé mon prénom, Matt, mais pas en entier. Bon. Je l'ai transformé en m'amusant graphiquement, parce que c'était un nom de dessinateur, donc une signature graphique. En transformant les deux T et le H, quand on trace ça en trait, ça fait trois barres. Et si on sépare les deux barres du H, enfin voilà, il y avait un jeu graphique comme ça, ça donnait les trois croix qui étaient le Golgotha, là, les croix de Jésus et les deux larrons. Qui était le symbole absolu de ce dans quoi j'avais baigné depuis ma naissance et contre quoi je m'étais révolté, défini comme opposant, probablement le premier de ma famille depuis des générations dont on ne peut pas se souvenir. Enfin, je pense que je suis de famille qui ont toujours... enfin, qui sont dans le... dans la tradition catholique française, quoi, pure.
Vous m'avez dit, Matt, que le lycée avait été votre atelier et que dessiner vous permettait de vous concentrer. D'ailleurs, vous êtes en train de dessiner en ce moment même. Vous m'avez dit, la pointe du crayon m'ancre, A-N-C-R-E, dans le monde autour de moi. Frédéric et Matt, le dessin en train de se faire offre-t-il à votre conscience un surcroît de présence et d'attention à votre environnement ainsi qu'à votre monde intérieur? Fred, peut-être?
Oui, effectivement, ça peut paraître paradoxal de se sentir à la fois plus ancré par rapport à son monde intérieur et ce qu'on est en train de faire et en même temps par rapport à son environnement extérieur, voire la conversation qu'on est en train d'avoir les uns avec les autres. Mais effectivement, c'est comme quand on gribouille, quand on est au téléphone, beaucoup de gens pratiquent ça même sans être dessinateurs et je pense qu'ils seront d'accord de... Enfin, comment dire... c'est vrai qu'on ressent quelque chose comme une connexion plus facile à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Pour moi, ça se rapproche un peu d'une forme de méditation.
C'est le temps de la pause musicale. Nous allons écouter La mort multicolore de Dashiell Hedayat. Cette chanson est, je crois, celle que vous écoutiez beaucoup au moment de la création d'Entrée Libre.
Je suis la mort multicolore. Pour ne pas déparer le décor, toute la couleur de l'ennui derrière les pare-brises de vos nuits. Je suis la mort multicolore. Pour ne pas déparer le décor, toute la couleur de l'ennui derrière les pare-brises de vos nuits. Toujours les mêmes affiches criardent les néons qui vous font cligner sur l'autoroute où vous roulez sans doute vers votre mort. À la radio, la voix susurre les bienfaits du déodorant au croisement des autoroutes. Les hot dogs tournent sur leur pic, le coq éclabousse la chaussée. C'est beau quand vous accélérez, la gerbe de brume sur les sandwichs, les machines à laver géantes, les aspirateurs à crédit, vous êtes très fatigué. Je suis la mort multicolore. Pour ne pas déparer le décor, toute la couleur de l'ennui derrière les pare-brises de vos nuits. Je suis la mort multicolore. Pour ne pas déparer le décor, toute la couleur de l'ennui derrière les pare-brises de vos nuits. Et le néon éclaire blafard des hamburgers, les Rolling Stones, le sourire de Marlène Dietrich, un whisky vieilli dans nos caves, des stations Martin Luther King où des noirs font le plein. Profilé derrière les motels, des pains briochés, des conserves, des soutiens-gorge à profusion. Je crois que vous avez frémi en lisant sur une des affiches. Bière! Crêpe! La mort!
Thank you.
sur ma 750 cylindrée. La boue éclabousse votre auto, l'air fait voler les badges porno que j'avais piqué sur mon cuir. La chaîne va briser en éclats, votre pare-brise, vos déflecteurs. Voilà, vous allez vous étaler sur l'étal des publicités, dans le fracas des tours.
Vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM Montpellier. Vous écoutez le cinquième numéro du Fil du Fer. Nous écoutons les cofondateurs d'Entrée Libre, Frédéric Dubois et Matt Conture.
Dubois.
Pardon, Dupuis.
Ah, c'est pas là. On me l'avait jamais faite, celle-là.
Oui, bah, je continue à être un mauvais animateur. Je vous interrompu, Matt, tout à l'heure, à propos du dessin qui ancre dans l'environnement et dans sa conscience. Et donc, maintenant, je vous laisse la parole à ce sujet.
Ouais. Alors oui, le dessin, on peut dire, toujours accompagné, a commencé pendant toute ma scolarité. Hein, c'est quasiment inévitable que quand on est dessinateur, on mentionne les dessins qu'on fait dans nos cahiers. Mais après ça, j'ai absolument pas eu besoin du tout de faire une école d'art. Je me suis formé sur les bancs de l'école et en écoutant les professeurs. Et c'est quelque chose qui est tellement complémentaire. C'est vraiment un système. J'ai l'impression que mon cerveau s'est formé comme ça et que je n'existe pleinement que si je suis en train d'écouter en dessinant ou si je suis en train de dessiner en écoutant. Et les deux se complètent de cette façon-là. Et le dessin, il a un rôle de comme une amarre la pointe du crayon est comme une encre, voilà, une encre de bateau. Hein, et puis c'est évidemment il y a le jeu de mots puisque c'est souvent un stylo ou une plume trempée dans de l'encre de Chine que j'utilise au départ. Dans mes planches de bande dessinée, dans les planches de bande dessinée, on fait ça avec de l'encre de Chine qu'on trempe. Et voilà, on ancre, et c'est un ancrage, on se sent presque physiquement, physiologiquement, comme ancré au réel ou au moment ou au système à ce qui se passe c'est une représentation physique du fil,
ouais.
Qui nous permet de pas nous dissoudre dans l'infini et dans le cosmos,
voilà. Et puis c'est vraiment, la sensation de contact, en fait, de contact, oui, de l'outil avec la feuille de papier qui est ressentie par la main et qui, du coup, crée cette sensation
de connexion avec le réel.
C'est vrai.
Ouais, quelque chose comme ça.
Venons-en à Entrée Libre. Frédéric Dupuis et Matt Conture,
oui.
Quelle est sa fonction et les buts de l'atelier que vous avez fondé en 2009.
Aujourd'hui, ils sont nombreux et vastes, mais à l'époque, c'était assez simple. C'était moi personnellement, j'en avais assez de travailler seul chez moi. D'ailleurs, je n'y arrivais pas du tout, et j'avais ce souvenir de ma dernière année à l'école Émile Cole, où nous avions, mes camarades et moi, des heures d'atelier, où il n'y avait pas de prof pour animer le cours, mais on travaillait quand même tous ensemble à nos projets. dans une même salle. Et ça c'était vraiment... C'est le meilleur contexte que j'ai jamais trouvé pour travailler. Parce que il y a cette possibilité de se concentrer et de se déconcentrer quand on en a envie. Et de revenir vers son travail avec un regard neuf. De revenir à son travail aussi avec les commentaires de ses amis. De voir ce qu'ils font aussi. Enfin, vraiment avec une bienveillance de s'apporter de bonnes choses pour la progression qu'on a dans le travail, pour se soutenir aussi dans les moments difficiles. Et du coup, arrivé à Montpellier, moi j'ai voulu reconstituer cette façon de travailler. Et du coup, j'ai cherché à m'entourer à ce moment-là de personnes. J'ai cherché des personnes qui avaient la même envie que moi. Et par des coups de chance aussi, on a eu accès à ce local rue du Bail, qui était un local qui servait à personne depuis des années et qu'on a investi, qu'on a nettoyé, repeint, réparé. Et voilà, à la base, c'est ça, c'est travailler à plusieurs.
Et alors, pour vous, Matt, oui.
Ouais. Moi, j'ai rencontré donc Fred par l'intermédiaire d'un ami commun. Et ce qui tombait bien dans sa proposition qu'elle m'a fait à ce moment-là, de travailler ensemble, enfin d'avoir un atelier de dessin commun et ouvert au public, c'est que moi, j'étais justement dans une phase où, ayant beaucoup pratiqué la bande dessinée solitaire et autobiographique, je m'étais, en arrivant à Montpellier, ouvert à une autre pratique qui était une pratique de dessin collective et même festive, hein, puisque dans notre revue Montpellier-Rennes, La Table, qu'on avait fondée à Figueroa, le Repas Latin, la Pleine Lune, tout ça, on avait une rubrique qui s'appelait La Fête en papier. Alors, ça consistait à se rassembler et sur une table, eh ben, on a à boire, à manger et aussi de quoi dessiner. Et c'était notre manière à nous de faire la fête, hein, plutôt que de jouer ensemble aux cartes ou regarder des matchs de foot. Ou voilà, nous, on faisait la fête en dessinant.
Puis on perpétue encore ça un petit peu, parce que il est pas rare qu'on ait de la bière, une pizza.
Voilà, des grandes tablées.
Des petites choses qui tournent et on dessine tous ensemble.
Dans la rue du Bail, devant notre atelier.
L'été, devant l'atelier dehors, ouais.
Comme les repas de quartier. Hein, c'est la rue est à nous.
Et pour nos auditeurs et nos auditrices qui seraient intéressés à aussi, pourquoi pas, créer un atelier, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Est-ce que c'est difficile de monter cette structure-là et de la garder dans le temps, peut-être?
Nous, ce qui a constitué nos principales difficultés depuis les 9 ans qu'on est dans notre atelier, c'est peut-être les disparités d'objectifs de chacun. C'est-à-dire que je pense que pour s'épargner des galères, ça peut être pas mal à la base d'établir, pas des règles, mais en tout cas une espèce de charte informelle sur les intentions de chacun et ce qu'on a envie de faire du lieu en priorité, et que ce désir soit commun. Parce qu'à partir du moment où les désirs sont pas les mêmes, forcément ça crée des difficultés d'entente. Et ça, c'est vrai que quand on vient dans un lieu pour travailler avec ses potes et être dans un bon contexte, et qu'on ne retrouve pas ça à cause de disparités, de mauvaise humeur, etc., là, ça compromet le lieu, pour de bon, c'est vrai.
Oui, alors nous, par rapport à comment fonctionnait le lieu, ce qu'il y a eu, c'est que c'était une colocation comme principe... De base, bon, il y avait forcément la pratique d'un art, mais c'était un peu, c'était juste, voilà, c'est un atelier à partager, et qui se proposait avait la possibilité d'être colocataire. Il n'y avait pas de sélection. Du coup, on n'était pas d'abord un groupe d'amis. Enfin, nous, les fondateurs, oui, on avait des affinités, ça allait. Mais après, dans les personnes, les différentes personnes qui ont postulé et qui sont devenues colocataires à différents moments, ça ne s'est pas produit par affinité. C'était juste des possibilités qu'on acceptait. On se disait, bon, un tel veut être colocataire, soit, mais il n'y avait pas d'âme de collectif. Du coup, c'est peut-être mieux d'être d'abord un collectif, d'avoir d'abord des affinités avant de se mettre comme colocataire d'un lieu.
Matt, vous m'avez demandé de diffuser aussi Dieu à un t-shirt de Manuel J. Grotesque. Quelle en est la raison et quelle est la proximité que vous vivez avec cette tournure d'esprit musical?
Ah oui, mais Manuel J. Grotesque, c'est parce que bon, c'est des copains avec qui j'ai fait de la musique à Montpellier qui m'ont fait connaître ça. Donc, on est du même univers un peu musical de Lofi, DIY, qui, en ayant comme base d'abord de faire du rock ou du bruit, on s'est mis après à faire des choses plutôt marrantes, plutôt insolites, plutôt bizarres. Et puis moi, j'ai fait comme une espèce de rituel, sans le vouloir, hein, ça s'est fait comme ça. Mais il s'est trouvé qu'à chaque session de dessin collectif, de fanzinage collectif, je ne peux pas m'empêcher de passer du Manuel J. Grotesque dans l'atelier. Sachant que voilà, la musique est toujours, pour moi, indispensable pour dessiner, où il faut qu'il se passe quelque chose, qu'on ait des choses à se raconter, qu'il y ait de la musique, mais on ne dessine pas dans le silence, quoi.
Alors écoutons Monsieur Manuel J. Grotesque.
Dieu a un t-shirt. Dieu a un t-shirt. Il a un t-shirt. Beau comme une pierre, il a un t-shirt tout bleu. Oui, car bleu ciel, c'est bleu Dieu. Oui, oui, bleu ciel, c'est bleu Dieu. C'est bleu Dieu, le bleu de Dieu. Dieu a un t-shirt. Dieu a un t-shirt. Il a un t-shirt. Il a un t-shirt tout bleu. Parfois Dieu s'ennuie un peu, mais il a bien le droit. C'est Dieu, le droit de Dieu. Dieu a un t-shirt. Dieu a un t-shirt. Dieu a un t-shirt.
J'ai parlé plutôt du New York Times. Matt Conture, quel est le pont entre Montpellier et cette ville avec le dessin et l'illustration, de manière assez rapide, s'il vous plaît?
Ah oui, oui, non, ce qui est rigolo, c'est juste que quand je suis monté à Paris pour présenter mes dessins, je suis allé voir un dessinateur qui s'appelait Monsieur Picotto, et ce qu'il m'a montré, c'était des dessins de Art Spiegelman, qui est le New Yorkais, comment dire, grand professeur de l'underground, on peut dire. C'est lui qui était à la tête de la revue Raw, qui était pour nous un modèle dans les années 80, quand on a fondé notre collectif qui est devenu l'association. Donc c'était cette connexion avec cet underground américain que des chroniqueurs, des journalistes ont retrouvé en entrant dans Entrée Libre. Ils ont dit, ah, là, on peut trouver des comics underground, on pourrait trouver des livres de Crumb, ou Crumb lui-même, d'ailleurs, qui habite pas loin. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'Américains qui continuent à venir s'installer dans la région.
Frédéric Dupuis et Matt Canture, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à visiter le site d'Entrée Libre, dont ils trouveront le lien sur la page de la radio FM+, dans l'onglet Le Fil du Fer. Au moment de nous dire au revoir, je vous laisse redire la citation que vous avez proposée pour éclairer votre conversation. Et c'est tout l'esprit de l'underground et de l'alternatif, sans doute.
Bah, ensemble, c'est mieux que tout seul.
C'était Le Fil du Fer, où l'on comprend que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chères oreilles à l'affût, chers cerveaux affûtés, je vous dis à bientôt pour notre émission numéro 6. Et d'ici là, n'hésitez jamais à passer le pas et à oser faire ce dont vous dites « Ah, ça, je veux bien le faire ». You're a fire.